Vous écoutez On lit pour vous.
Une première clinique de santé familiale pour les Autochtones ouvre à Montréal. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir. La première clinique de santé familiale adaptée pour les besoins autochtones à Montréal a officiellement ouvert ses portes vendredi 12 avril 2024. Ce projet, qui a été amorcé en 2021, est porté par Montréal Autochtones afin d'assurer le déploiement et la pérennité d'une offre de services de santé et services sociaux adaptée à l'identité et aux particularités de la clientèle autochtone qui se trouve dans la région métropolitaine. L'annonce de l'ouverture a été faite par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. M. Dubé s'est réjoui que la nouvelle clinique favorise l'aspect de proximité pour offrir des soins de première ligne. On ne demande pas à la personne qui arrive à la clinique si elle est inscrite à un médecin de famille ou si elle a appelé le 811. On lui dit « Quel est ton besoin ?» Et en fonction du besoin, on va t'aider à aller trouver la bonne personne. Ce concept de proximité de première ligne, on est en train de le re-questionner. L'exemple de la clinique fait partie de cette vision, a mentionné M. Dubé. La clinique a pour but d'améliorer l'accès à des services de première ligne, culturellement sécurisants pour la population autochtone urbaine de Montréal, en complémentarité avec les services publics existants. Des intervenants sociaux, appelés navigateurs, vont s'assurer que la personne autochtone a eu un service adéquat en fonction de ses besoins, un peu comme un service d'après-vente, illustre M. Dubé. La région métropolitaine de Montréal compte plus de 35 000 personnes d'origine autochtone, dont 13 000 sur l'île. Il s'agit de l'une des plus grandes communautés autochtones du Québec en milieu urbain. Plus de la moitié des membres des Premières Nations et des Inuits ne vivent pas en communauté, ils vivent en milieu urbain, a indiqué le ministre Lafrenière. C'est pour cela que la clinique qu'on annonce aujourd'hui, elle fait tout son sens. À Montréal, c'est plusieurs milliers de personnes qui y vivent, qui y gravitent, qui sont de passage. Ça prend des services qui sont culturellement adaptés. Ça veut dire avoir des navigateurs, de bien les accueillir, de faire en sorte que le système répond à leurs besoins et non qu'ils répondent aux besoins du système. L'espace de soins de Montréal s'ajoute aux 7 autres cliniques de santé culturellement sécurisantes déjà en place dans la province. D'autres projets de ce type seraient déjà dans les cartons et des annonces pourraient avoir lieu prochainement, a fait savoir M. Lafrenière. La clinique de santé de Montréal offrira différents services de première ligne avec une attention particulière portée à la prévention. Les professionnels de la santé qui y travailleront sont formés aux réalités et besoins des communautés autochtones. On espère être capable de former du personnel médical qui est autochtone. On peut devenir une porte d'accès pour des stages ou différents niveaux d'implication, ainsi que d'autres praticiens allochtones qui veulent découvrir comment mieux faire leur pratique, a déclaré Philippe Meyer, directeur général de Montréal Autochtone. Durant son allocution, M. Meyer a souligné que, pendant trop longtemps, la communauté autochtone a été confrontée à des expériences de discrimination et de racisme. Rebâtir la confiance. Cette négligence a permis des situations inhumaines, comme ce que Joyce Echaquan a vécu durant ses dernières minutes, a-t-il affirmé. Ces traumatismes collectifs et intergénérationnels ont creusé un fossé de méfiance, poussant trop souvent nos gens à éviter les structures de soins traditionnelles. Il a fait valoir l'importance d'un projet comme celui de la nouvelle clinique de santé adaptée aux réalités autochtones, qui permettra de renverser les impacts négatifs vécus par des générations. Les membres patients pourront être suivis par une équipe médicale composée de médecins de famille et d'infirmières issues de la Clinique universitaire de médecine de famille, GMFU, de Verdun. Les locaux de la clinique, situés sur la rue Saint-Jacques, sont constitués de 2 salles d'examen et 3 pièces polyvalentes qui peuvent servir pour différents types de consultations. La pièce maîtresse, qui rend ce lieu unique, appelée la salle cèdre, est composée de plusieurs fauteuils avec des murs en bois. Elle servira entre autres pour les personnes issues des communautés autochtones qui désirent être accompagnées par un gardien du savoir. Il est aussi possible d'y faire plusieurs cérémonies et des pratiques de bien-être traditionnelles. Une aération adaptée a été installée. D'autre part, M. Meyer a dit avoir entrepris des démarchages avec la DPJ pour faire reconnaître la clinique dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse. On veut assurer la culture des enfants et le bien-être de la famille, a précisé M. Meyer. C'était une première clinique de santé familiale pour les Autochtones, ouvre à Montréal, un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir.
Les Québécois et l'argent, ça ne s'améliore pas. Une chronique signée Mario Dumont, parue le 10 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Toujours cette relation complexe des Québécois avec l'économie et les finances. Les jeunes en connaissent très peu aux affaires financières. C'est le résultat désolant d'une enquête de la firme Welcome Spaces, publiée ce matin dans Le Journal. Les moins de 45 ans, en général, en arrachent à répondre à des questions sur les finances. Chez les 18-24 ans, on n'obtient même pas la note de passage. On ne parle pas ici de connaître la finance internationale, les stratégies boursières de Wall Street ou le fonctionnement des multinationales dans les paradis fiscaux. On parle des éléments de base qui font partie du quotidien de tous les consommateurs. Les taxes, les taux d'intérêt, les cartes de crédit, les hypothèques ou l'inflation. Nouveau cours. Fait malheureux, la cohorte des plus jeunes, les moins de 25 ans, est exactement celle qui a bénéficié du retour du cours d'éducation économique au secondaire. Rappel des faits. Le ministre libéral Sébastien Proulx avait imposé qu'on ramène de tels cours pour les élèves de 5e secondaire à la rentrée scolaire 2017. Donc, la quasi-totalité des 18-24 ans qui ont répondu au sondage a dû passer à travers cette formation. Je ferai 2 commentaires. Premièrement, cela en dit long sur la gaffe que ce fut de retirer ce cours alors que les jeunes manquent cruellement de connaissances financières. Deuxièmement, il faudrait peut-être revoir le contenu et la façon de donner ce cours à partir du constat qu'une bonne partie des jeunes ne semblent guère suffisamment outillés après l'avoir suivi. Je n'ai pas assisté au cours d'éducation financière donné au secondaire ces dernières années, mais je connais au Québec notre capacité de faire des formations déconnectées de la réalité. Dans le cours de conduite, on donnera une session de 2 heures sur le concept fumant d'éco-conduite. On y expliquera à l'élève qu'en pesant moins sur le gaz, il dépense moins d'essence, ce qui est bon pour la planète. Wow! Mais dans le cours de conduite, on omettra de parler de choses simples et concrètes comme le lave-glace, les crevaisons ou la batterie. Conséquences humaines. Je sais qu'au Québec, on aime minimiser l'importance des questions financières. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent ne fait pas le bonheur. Tout cela est bien vrai. Néanmoins, la méconnaissance des enjeux financiers peut vite entraîner des conséquences aussi concrètes qu'humaines. Les erreurs financières peuvent gâcher le sommeil. Ils veulent mettre du sable dans les engrenages de la vie de couple. Ils peuvent conduire à une incapacité de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Lorsqu'une personne devient le soutien de la famille, une méconnaissance des règles financières peut même pousser la famille au complet dans l'embarras. À une époque, on ne parlait pas trop de finances à l'école au nom de la religion. Aujourd'hui, dans tous les cours, géographie, français, mathématiques, sciences, on fera référence à l'écologie, la nouvelle religion. C'est comme si, 50 ans plus tard, l'économie contrevient encore à une religion. C'était « Les Québécois et l'argent, ça ne s'améliore pas », une chronique signée Mario Dumont, parue le 10 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
À ce qu'il paraît, j'ai été annulée. Un texte de Élie San, paru le 12 juin 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Son essai sur la grossophobie internalisée lui a attiré les foudres de certaines de ses consœurs féministes. Mais, même si l'autrice de « Cet exécrable corps » a le sentiment d'avoir goûté à une forme de trahison dans son milieu militant, elle refuse de s'opposer à la « cancel culture ». Ça m'obsède de constater à quel point nous, les féministes, sommes exigeantes les unes envers les autres. Je ne suis pas la première à le dire et je ne serai sans doute pas la dernière. Comme pour répéter les « patterns » que nous apprend le patriarcat, on s'impose un code strict. Et si on le respecte, si on suit toutes ces règles à la lettre, il nous donne droit à l'étiquette dorée de « la bonne féministe ». Mais est-ce que notre but, ce n'était pas justement d'être libre, de construire autre chose? Lorsque vient le temps d'arracher une étiquette, on est encore plus efficace. Probablement parce qu'on a déjà trop souffert et qu'on est à fleur de peau. Probablement parce que les faux alliés et les fausses alliées se répandent plus vite que le variant Omicron au printemps 2021 ou que notre féminisme est central à notre identité. La trahison est lourde lorsqu'elle vient de personnes qu'on respecte, mais qui s'opposent à notre travail. C'est avec toute leur autorité morale, leur crédibilité et parfois même leurs abonnés qu'elles érigent un mur entre nous et la communauté du web Kib, entre notre ressenti et la discussion qu'on voulait pourtant alimenter. Je suis consciente que la ligne est mince entre réfléchir publiquement à une situation, se victimiser et jouer le jeu de ceux et celles qui font du « tone policing », de la modération de ton, en accusant des personnes opprimées de s'exprimer sans contenir leur colère, par exemple. Parler pour dénoncer et parler pour extérioriser ses sentiments sont deux options valides. Éduquer patiemment ne peut pas toujours être notre objectif. Je le conçois et je ne l'exige de personne. J'accorde seulement beaucoup de valeur à la diversité des tactiques. Dans mon premier livre, qui porte sur la grossophobie internalisée, je tenais à offrir quelque chose qui diffère des approches corporelles plus optimistes, lesquelles me font vivre énormément de dissonances cognitives. Sauf qu'avec cet ouvrage, je n'ai pas réussi à obtenir l'étiquette de la « bonne grosse ». Je suis convaincue qu'entre féministes intersectionnelles, on est capable de plus d'empathie. On a déjà suffisamment d'ennemis, des ennemis réels. On n'a certainement pas besoin d'en rajouter sur la liste. Le spectre de la « cancel culture ». Je ne crois pas aux fantômes. Ce serait vraiment génial s'ils existaient. Ça nous ouvrirait tout un monde de possibilités. Mais j'ai malheureusement l'impression que nous, les vivants et vivantes, sommes seuls. Ma posture est la même en ce qui a trait à la « cancel culture », la culture de l'annulation. Ce serait vraiment génial, si elle existait. Ça nous ouvrirait tout un monde de possibilités. Mais j'ai malheureusement l'impression que nous, les femmes et les personnes issues de la diversité, sommes seules. Seules face à la violence misogyne, raciste, transphobe, homophobe et grossophobe de la classe dominante, en clair, des hommes. La cancel culture serait essentielle pour que la sphère médiatique soit en santé, parce que le public doit avoir un pouvoir discrétionnaire quant à l'identité des individus privilégiés qui détiennent une tribune. Mais depuis l'avènement du mouvement « Moi aussi » en 2017, au Québec, la vaste majorité des personnalités dénoncées ont gardé leur place devant les caméras, au moins à moyen terme, l'humoriste Julien Lacroix, l'animatrice Marie-Pierre Morin, le chanteur Éric Lapointe, le chef politique Yves-François Blanchet, le chanteur Bernard Adamus, le chanteur Alex Nevsky, le chanteur Kevin Parent et l'humoriste Julien Tremblay, pour ne nommer que celle-là. Avouons que la menace de voir sa carrière mise à l'index n'est en vérité qu'une légende pour faire peur aux masculinistes et à leurs marionnettes afin de les motiver à se braquer contre les dangereuses féministes. Il y a des hommes qui s'expriment contre les dénonciations hors du système de justice de façon quotidienne, avec des comptes de réseaux sociaux dédié à la cause, principalement sur TikTok et Instagram. Ils offrent une terre d'accueil virtuelle aux personnes ciblées par la cancel culture et je les vois aller depuis longtemps, de loin. Puis, surprise! Mon visage est apparu sur deux de ces plateformes, devenant en quelque sorte la saveur annulée de la semaine suite aux critiques émises par de populaires militantes féministes à propos de mon livre. En stories et en vidéo, les masculinistes ont résumé grossièrement les événements, tout en s'amusant, bien sûr, du fait que j'encourage moi-même à canceller des gens, notamment en diffusant la parole de survivantes. Ils s'attendaient désormais à ce que je gonfle leur rang de personnages déchus qui refusent de vivre les conséquences de leurs actions. Ces hommes nous tendent la main, tout en nous promettant amour et compassion à la manière des grands gourous. Dès qu'on ose cracher dans cette main, par contre, l'amour disparaît assez vite. Venant de gens qui disent se battre pour la liberté d'expression, c'est une impressionnante ironie que de confondre critique et cancellation aussi violente les critiques envers mon essai aient-elles pu être. Personne n'est obligé de me lire, et le monde littéraire est une tribune parmi tant d'autres. Si des personnes invitent le public à rester loin d'une publication précise, il reste quand même d'autres moyens d'expression à la portée des auteurs-autrices. Même quand des commentaires remettent en question notre point de vue et notre droit de parole. Même quand des reproches s'en prennent à l'humain derrière la création. Même quand il y en a plusieurs, des jugements lancés comme des attaques. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est de la cancellation pour autant. Par respect pour la voix des communautés opprimées, il faut tout faire pour rester loin des discours contre la cancel culture. Elie San est une bibliothécaire de son temps. Elle se sent chez elle dans le vaste monde des réseaux sociaux où elle milite principalement contre les violences genrées. Après des centaines de statuts revendicateurs, elle s'est finalement aventurée dans le monde réel, celui de l'édition, avec cet exécrable corps. C'était « À ce qu'il paraît, j'ai été annulé », un texte de Eli San, paru le 12 juin 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Au-delà de la parité, une chronique d'Émilie Nicolas parue le 27 juillet 2023 dans Le Devoir. C'est un débat entre féministes qui a le plus souvent une portée, disons-le d'emblée, intergénérationnelle. D'un côté, il y a les femmes, pour la plupart plus âgées, qui se sont battues pour briser les plafonds de verre et avoir accès à une maigre représentation dans les lieux de pouvoir. Ce sont elles qui ont fondé la quasi-totalité des organismes qui œuvrent à augmenter la proportion de femmes en politique, dans le milieu des affaires, dans les emplois traditionnellement masculins. Elles qui ont vécu la plus grande émotion en suivant les carrières d'une Hillary Clinton ou d'une Pauline Marois. Leur mot-clé, leur combat, la parité. De l'autre côté, il y a les féministes, pour la plupart plus jeunes, qui ont eu le privilège de tenir pour acquise au moins une certaine représentation des femmes dans les lieux de pouvoir et qui voient bien que la planète continue de brûler, si vous me permettez de caricaturer ainsi. En gros, parce qu'on sait bien que même si des obstacles demeurent importants, il n'est plus impossible pour les femmes d'aller en politique, on se permet de pousser la réflexion plus loin. Est-ce que la dernière élection albertaine, par exemple, qui a été remportée par la conservatrice Danielle Smith qui affrontait la néo-démocrate Rachel Notley, est une victoire féministe? Est-ce que, avec deux femmes chefs de parti, le patriarcat a automatiquement reculé dans l'Ouest? Le débat cesse d'être abstrait lorsqu'on s'intéresse au renouveau dans les organismes qui militent pour la parité au Québec ou ailleurs au pays. Le plus souvent, on est non-partisan et on cherche à offrir des formations qui prépareront les aspirantes candidates à remporter des élections dans tous les partis politiques, de gauche comme de droite. Ailleurs au pays, la manière de fonctionner a fini par susciter de vifs débats. D'une part, on se demande comment il pourrait être féministe de travailler à l'élection de femmes socialement conservatrices, opposées au droit à l'avortement, par exemple, simplement parce qu'elles sont femmes. D'autre part, une lecture plus intersectionnelle du féminisme vient encore compliquer les choses. Pourquoi le succès électoral d'une femme qui s'en prendrait aux droits des femmes immigrantes ou qui se fiche des droits des femmes autochtones devrait-il être célébré par toutes les femmes? Pourquoi soutenir automatiquement une femme qui refuserait d'augmenter le salaire minimum alors qu'on sait bien que c'est une majorité de femmes qui en vivent? Ce sont là des exemples du genre de questionnement épineux qui a éloigné bien des jeunes féministes du combat pour la parité. Comme dans la plupart des débats, notamment intergénérationnels, tout le monde a peu raison. Il ne peut y avoir de politique féministe sans femmes. Mais la seule présence de femmes ne garantit pas le féminisme. À Québec solidaire, on semble être arrivé à cette même conclusion qui rassemble les deux perspectives. Sauf que, comme avec les organismes non partisans, c'est dans l'exécution des principes qu'on arrive aux questions épineuses. Alors que le caucus solidaire est désormais composé de 8 hommes et de 4 femmes, l'exécutif du parti ainsi que plusieurs élus et ex-candidates poussent pour qu'une femme remporte la course à l'investiture dans Jean Talon, une circonscription de Québec où la CAQ, le PQ et Québec solidaire sont au coude à coude. La situation crée bien sûr un malaise, alors que la première candidature déclarée est venue d'Olivier Bolduc, qui était le candidat local lors de la dernière élection générale. Christine Gilbert, ancienne candidate dans Loubinière-Frontenac, s'est aussi lancée dans la course mercredi. Pour expliquer les encouragements à voter pour une femme, on répète que Québec solidaire peut difficilement se targuer d'être un parti féministe si des efforts ne sont pas faits pour que les femmes soient bien représentées au caucus. La logique tient la route. Il resterait à la compléter. Pourrait-on mieux communiquer au grand public ce que ça change, tant sur le plan des idées défendues que sur celui de la culture politique interne, d'avoir plus d'élus, eux? Pourrait-on poser des questions aux hommes et aux femmes qui se présenteront à l'investiture sur le féminisme qu'ils et elles défendent? Pourrait-on, en d'autres termes, rappeler aussi la substance du débat plutôt que les seules statistiques? Au fédéral, le gouvernement libéral peut nous fournir plusieurs exemples de ce qui advient lorsqu'on se concentre sur l'optique paritaire en oubliant de communiquer sur le fond. Encore hier, un remaniement ministériel nous garantissait le maintien de l'égalité homme-femme au gouvernement avec 18 hommes et 18 femmes. C'est tant mieux, soulignons-le. Par ailleurs, il faudrait aussi rappeler que c'est un Conseil des ministres tout aussi paritaire qui avait produit la politique d'aide internationale féministe, PAIF, en 2017. En grande pompe, on avait annoncé que le féminisme faisait partie des valeurs de ce gouvernement et qu'il était impératif que ces valeurs teintent le rôle du Canada dans le monde. Ce printemps, la vérificatrice générale Karen Hogan, aussi une femme, donc, avait conclu dans un rapport que 24 des 26 indicateurs de progrès mis de l'avant par le ministère des Affaires mondiales ne donnaient pas de résultats mesurables. En gros, on ne sait pas si le gouvernement du Canada a quelque impact que ce soit sur l'avancée de la condition des femmes et des filles à travers le monde, et en Afrique subsaharienne en particulier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, particulièrement, on peine à trouver une seule mention de la PAIF dans les communications les plus visibles du gouvernement. Ajoutons que la seule présence de femmes en journalisme politique n'a pas en soi garanti qu'on poserait des questions au gouvernement Trudeau ou à la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, toujours une femme, sur les efforts réels de solidarité du Canada envers les femmes africaines. C'est là, au fond, la différence entre les femmes et le féminisme en politique. Il faut toujours veiller à ce que le fond suive la forme. C'était « Au-delà de la parité », une chronique d'Émilie Nicolas parue le 27 juillet 2023 dans Le Devoir.